Thierno Diallo, un chagrin guinéen et un amour français.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Sa Guinée le chagrine, il le dit, l'écrit, le hurle dans son premier récit intitulé « Moi, migrant clandestin de 15 ans » et c'est signé Thierno Diallo. Tiens, un Diallo dans le fauteuil confiné dans sol majeur. Bercé toute son enfance par le poulard, c'est dans la langue des misérables à la Hugo qu'il déroule son chagrin et son amour pour cette terre qu'il a dû quitter clandestinement en 2009. 10 ans après, le voilà installé sur son petit strapontin strasbourgeois en Alsace, le dictionnaire rempli de mots cailloux mais précieux. Prison politique, interpellation, OFPRA, permis de séjour, BTS, Conseil de l'Europe. C'est pas un conte de fées, c'est simplement la vie mordante de Thierno Diallo, 25 ans, qui s'est faufilé à travers la langue pour en faire deux récits de vie. Bonjour Thierno Diallo.
Bonjour Yasmine.
Touli, comme on dit chez vous? Comment on dit bienvenue en peul?
Touli.
Touli.
Touli, merci.
On va raconter votre France adoptive et votre Guinée natale en posant d'abord quelques mots en peul, mais vraiment dans la vraie belle langue peul, sur le pick-up dans sol majeur, grâce à Ali Mabba, nouvelle génération de la chanson guinéenne. Un petit peu de peul comme ça en ouverture, car je crois que cette langue se fait rare dans votre vie d'aujourd'hui.
Oui, oui, très rare, d'autant plus que je ne côtoie pas beaucoup de peul à Strasbourg, malheureusement. Et maintenant, on a aussi la musique, on a aussi Internet, donc voilà, c'est pour ça que j'ai proposé Ali Mabba. C'est une jeune artiste de ma génération qui chante en poulard. C'est une chanson où il parle, en fait, où il appelle la jeunesse guinéenne à aller travailler au pays.
Tête tressée, c'est Ali Mabba pour chatouiller en poulard les oreilles de notre invité Thierno Diallo qui raconte sa Guinée en français et presque en larmes. Page 31, voilà ce qu'il écrit dans « Moi, migrant clandestin de 15 ans ».
La Guinée possède de nombreux fleuves et d'abondants gisements de minéraux. Mais cela n'empêche pas qu'elle soit l'un des pays les plus pauvres du monde. Ma Guinée me chagrine. Chez nous, un voleur de téléphone portable risque plus qu'un meurtrier. Insécurité et instabilité caractérisent le pays. Des politiciens malhonnêtes profitent des différends ethniques et achètent les voix des analphabètes. L'opposition pousse la jeunesse à se rebeller et le pouvoir la massacre. Jusqu'à quand on couvrira notre sang?
Population et population, villageoises et villageoises, villoises et villoises, compagnons et compagnoises, hommes et femmes de ce pays, enfants et enfantes, je vois que vous êtes nombreusement venus pour m'écouter. Je vous remercie beaucoup. Maintenant que je suis chef d'État, tout va bien marcher dans ce pays. À partir de dorénavant, il n'y aura plus de corruption dans l'administration. Les corruptionneurs seront arrêtés par les services spéciaux, conduits au tribunal, où ils seront sévèrement justifiés par les justiciers et emprisonnés. Il n'y aura ni avocat, ni ananas pour leur défense.
Si.
Il n'y aura plus de volement de fonds publics, ni de fonds privés d'ailleurs.
C'est comme.
Car la justice fera ses travaux.
Coup d'État.
Ahurissant discours du président paysan, Lansana Conté, donc, qui succédait à Sékou Touré en 84. Discours que vous rapportez, Tierno Diallo, dans « Moi, migrant clandestin de 15 ans » qui est paru il y a quelque temps aux éditions « La nuit est bleue ». Un discours qui a fait les gorges chaudes auprès des écoliers comme vous.
Oui, effectivement. Donc, même nous, je me rappelle à l'époque, donc on ne parlait pas du tout la langue, hein, mais on savait tout de même que ce n'était pas un discours digne d'un président de la République. Donc, nos grands frères en rigolaient et nous aussi.
Ça donne le ton d'un pays, ce genre d'allocution dans cette langue-là, et qui se trouve être moqué par les écoliers eux-mêmes du pays.
Oui, oui. À cette époque, donc moi, je ne m'intéressais pas vraiment à la politique, mais nous on vivait tout ça quoi dans nos familles, dans nos quotidiens et tout ça, donc on savait déjà que le pays n'était pas dirigé par des personnes qui sont à mesure de diriger un pays comme la Guinée.
Je précise qu'on ne se voit pas, hein. On est toujours dans la formule en sol majeur confiné, tous les trois, Laura Pinto, vous et moi. Confinés chacun dans son coin, vous à Strasbourg et nous à Paris et en banlieue. Tierno, vous êtes né en 94 dans un bidonville de Conakry, entre une mère aimante, à laquelle vous rendez hommage d'ailleurs, et un père absent, parce que, dites-vous, c'est sans doute lié au fait qu'il était polygame, c'est ça ?
Oui, maintenant, avec le recul, j'essaye aussi... je cherche toujours à comprendre aussi, hein, donc je tire ce bilan-là. Donc moi, ma maman était la deuxième épouse, donc c'était pas du tout facile pour elle. Et donc on a eu à vivre des situations très très difficiles qui a causé l'éloignement de ma maman, parce que nous-mêmes on est partis en fait.
Votre mère a divorcé?
Oui, je ne peux pas appeler ça divorcer, je ne sais pas comment dire ça, parce que les mariages en Guinée aussi, et un peu dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, donc rien n'est officiel.
En tout cas, votre mère se sépare de votre père et elle s'installe avec vous. Alors là, c'est intéressant d'en parler un tout petit peu, dans un quartier Soussou, alors que vous êtes Peul. Et vous semblez dire que vous, les Peuls, vous êtes mieux accueillis dans ce quartier que chez les vôtres.
Oui, dans ce quartier-là, on était très, très bien accueillis. Nous, on nous appelait à la famille Peul. Donc, on était la seule famille Peul qui était là. Et on était très, très bien accueillis parce que mes amis à Soussou qui étaient avec moi et tout ça, ils avaient cette habitude d'appeler ma mère maman. Donc, ils l'appelaient Néné, qui veut dire maman en poulard. Mais enfant, on se questionne aussi, on pose beaucoup de questions, on se demande pourquoi c'est comme ça.
Comme ça, c'est-à-dire, ça fonctionne toujours, toute avancée dans la société, tout avancement, se fait en fonction de l'ethnie.
se fait en fonction de l'ethnie et en même temps, on se dit, après, c'est ce qui se dit aussi, pour exister, il faut s'attacher à l'ethnie. Donc, si on se voit se détacher de l'ethnie auquel on appartient et qu'on est accueilli par l'autre ethnie, que les adultes nous ont dit souvent de s'éloigner, de se méfier de l'autre, oui, là, on se pose encore d'autres questions.
Alors, les problèmes vont vraiment commencer pour vous dans cette Guinée qui connaît l'insécurité. Je passe l'épisode pour vous à Freetown, en Sierra Leone, hein, où vous allez trouver un refuge, mais vous allez revenir en Guinée. Les problèmes commencent en fait avec le militantisme, si j'ose dire, de votre mère. C'est une militante de l'Union des Forces Démocrates de Guinée, de l'UFDG. Votre mère était une militante.
Oui, oui, effectivement. Et le fait qu'aussi en Guinée, chaque parti a son parti politique. Donc du coup, automatiquement, les peuls sont militants pour leur parti, et les soussous aussi, et les malinqués. Donc c'est souvent les adultes et les enfants sont embarqués aussi dans ça, inconsciemment.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'après la mort de Lansana Conté, dont on entendait tout à l'heure le beau discours, et l'arrivée au pouvoir de Moussa Dadis Camara, qui est arrivé au pouvoir, vous allez l'apprendre plus tard, il est arrivé au pouvoir par tirage au sort, lors du meeting politique du tristement célèbre 28 septembre 2009, vous et votre mère allez vivre votre plus grand traumatisme.
Oui, effectivement. Donc, c'est que moi, je trouve impressionnant dans tout ça. Donc, c'est que ce jour-là, il n'y avait pas de peuls, il n'y avait pas de soussous, il n'y avait pas de malinqués. Tout le monde était uni pour un objectif commun dans la.
En même temps, ce meeting, en même temps, Tierno, je vous coupe, ce meeting, il était censé s'opposer à une éventuelle candidature de Dadis Camara à la présidentielle de 2010.
Et oui, effectivement. Et surtout à une éventuelle. Donc, parce qu'il y avait aussi la peur de revoir l'armée au pouvoir. Donc ces manifestations-là, se soldent de beaucoup de morts, de viols. Et moi, je suis allé avec le groupe de femmes de ma mère. Donc il y avait aussi des enfants de mon âge qui étaient avec nous. Donc au début, on arrive au stade du 28 septembre. Donc nous, on est venus en tant qu'enfants. On se disait que il y aura une bonne ambiance, ils vont nous donner à manger, des bonbons, donc ça sera la fête, quoi. Mais malheureusement, l'armée arrive, donc ils tirent comme ça au hasard sur les gens. Et voilà, une journée traumatisante.
Donc votre mère disparaît ce jour-là, vous ne savez pas ce qu'elle devient. Et vous-même, vous êtes emmené, vous êtes détenu pendant 5 jours au camp militaire d'Alpha Yaya Diallo.
Au camp militaire d'Alpha Yaya Diallo, oui. Et donc là, il fallait se mettre en rang, on est séparés des femmes et après ils nous mettent en cellule.
Bon, vous racontez hein, ces 5 jours de détention, on peut déjà les imaginer. Vous n'avez à ce moment-là, Tierno, que 15 ans, vous êtes encore un enfant. Mais vous allez être sauvé de ce camp militaire, de quelle manière?
Je vais être aidé par une connaissance qui est Peul, parce que voilà, dès le soir déjà, il y avait l'armée même qui venait voir s'il n'y avait pas des membres de leur famille qui étaient emprisonnés là et qui cherchaient aussi à avoir des nouvelles.
Est-ce que vous savez à ce jour ce qu'est devenue votre mère, Tierno?
Étant au camp Alpha Yaya, je ne savais pas encore, je n'avais pas de nouvelles. Donc j'ai eu des nouvelles de ma mère tout récemment, hein, après avoir quitté la Guinée déjà quelques années plus tard.
Oui.
Ouais, on discute de temps en temps, on parle de tout ça et on a l'espoir de se retrouver, d'être unis un jour.
Alors si on reprend ce trajet, en sortant de prison, donc de ce camp militaire, il y a une tradition en Guinée qui veut qu'on se baigne dans l'océan.
Oui, oui.
C'est joli.
Oui, alors ça, on s'est dit que parce que la Guinée, le Conakry, est bordée de l'océan Atlantique, donc il faut aller à l'océan, donc nous on appelle ça en poulard camayo. Il faut aller à l'océan, se laver, il y a avec de l'eau salée, les vagues vont emporter tout ça, ces malheurs qu'on a eu en contact avec la prison et tout ça. Donc pour que ça marche, il faut y croire.
Votre voyage, vous le racontez en détail hein, dans votre livre, on ne peut pas le faire ici, on n'a pas ce temps-là, mais Dites-nous au moins de quelle manière, au moment d'embarquer sur un bateau de fortune, plus ou moins, de quelle manière vous grimpez clandestinement sur ce bateau ?
Oui, en fait, on est caché. C'est juste que, ben, vers le soir, après le bateau s'apprête à partir. Donc, il y avait des chaînes et tout ça. Et moi, je ne sais pas nager du tout. Donc, on attend. Après, on est amené par les passeurs, sachant que ben, ce n'est pas tout l'équipage qui est au courant. On est amené
au courant
par
qu'il
eux.
Y a des clandestins qui vont monter sur le bateau.
Oui, oui, oui. Quand le bateau va partir, en fait, tout le monde s'intéresse de l'autre côté. Donc, nous, on va venir par là et ils sont avec nous. C'est les chaînes, il faut aller vite.
Et, c'est sur les chaînes et sur l'ancre même du bateau que vous vous agrippez ?
Oui, il faut s'agripper. Et après, ben, du moment où on est dedans, par survie, il y a, comment décrire ça, il y a une force qui naît. Donc, on ne peut que continuer et ces 10 minutes-là peuvent nous paraître plus d'une heure, mais c'est comme ça qu'on se retrouve au bateau.
Alors, vous allez arriver sur une île grecque, puis arriver à Athènes, où là, vous allez rejoindre un squat où vous retrouvez toutes les nationalités, un squat qui s'appelle Placia Amerikis. Pourquoi vous n'avez pas souhaité rester en Grèce ?
J'avais peur de me perdre dans tout ça. Donc, si j'avais eu bon accueil en Grèce, c'est vrai que je serais resté là. Parce qu'il faut savoir qu'en Grèce, il y a à Athènes, surtout en ce moment, en 2009, il y avait des partisans d'un parti politique qui étaient là, le Lobe Doré, ou je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, c'est ça.
Donc, ils venaient souvent tabasser des migrants comme ça. Et pourtant, ben, c'était à Athènes. Le Platia Amerikis, c'est dans le centre d'Athènes. Et Athènes, c'est une ville qui bouge, quoi. Donc, ils venaient nous tabasser là. Si je me rappelle, je pense que c'était tous les mardis et tous les jeudis.
Donc, finalement, Tierno, vous allez vous embarquer sur ce que vous appelez le charognard des Blancs.
Oui. Oui, j'appelle ça le charognard des Blancs parce que quand on était enfant, donc... on voyait les avions décoller, on appelait ça les charognards des Blancs. voilà, le fait de
c'est
les
pas
voir
très gentil, hein.
Il y a rien de méchant dans tout ça, parce que pendant les mariages et tout ça, on voyait les charognards qui venaient, qui volaient, qui avaient en tout cas cette liberté de s'envoler, d'aller au ciel, de revenir au sol. Donc nous, c'est cette image-là qu'on avait de l'avion, et c'était pas du tout péjoratif.
Alors, vous voilà à Roissy. Là aussi, il faut lire, hein, parce qu'en même temps, vous vous sentez chez vous quand vous arrivez à Roissy, simplement parce que vous voyez les inscriptions en français. Donc, il y a ce lien à la langue française qui est déjà là, on y reviendra. Votre compagnon de voyage vous laisse tomber, lui, en emportant avec lui vos petits sous et vos papiers, surtout. Vous commencez votre vie de sans-papiers, c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais que vous n'aimez pas l'expression. Mais en même temps, vous avez une bonne étoile qui va vous conduire jusqu'à l'association Thémis. C'est une association qui donne accès aux droits des enfants et des jeunes. Au début, vous ne le savez pas, hein, vous êtes tremblant, vous vous dites que la police va vous embarquer, mais pas du tout. Et ensuite, cette association vous confie au foyer Oberholz, qui est une association protestante, pour le dire vite, où là, vous découvrez, Tierno, un nouveau monde, une nouvelle vie.
Oui, oui, effectivement, là je découvre la campagne alsacienne. J'arrive là, je trouve un calme, j'étais impressionné par tout ce que je voyais et je faisais toujours des comparaisons. Je comparais ce que je vivais à, par exemple, au foyer, à ma vie en Guinée. Et je me rappelle aussi plus tard, donc je suis scolarisé, donc je compare aussi les salles de classe à celles de la Guinée. J'étais sur ces choses-là, mais j'étais dans l'admiration, oui.
L'admiration et puis effectivement la découverte. Vous découvrez un monde blanc. C'est la première fois que vous vous retrouvez au milieu des blancs. Vous découvrez la neige. Vous êtes observateur effectivement des habitudes à table, notamment, qui sont différentes de vos habitudes à Conakry. Vous êtes très, très observateur. En étant scolarisé... vous commencez à aussi observer et là vivre douloureusement tout ce qui est démarche administrative pour une demande d'asile. Et là, vous commencez à tenir un journal, Alors à qui destiner ce journal ? À celui que vous allez appeler Tricolore.
À chaque fois que je ne me sens pas bien, je me promène dans le quartier de l'Orangerie à Strasbourg pour me vider la tête. Sa beauté me convainc que mon combat pour être accepté ici en vaut la peine. Tricolore, c'est à l'Orangerie que tu ressembles, et pas du tout à l'étiquette repoussante que certaines veulent te coller. Aujourd'hui, il y a plus de peur et de rejet dans l'air que d'ouverture et de compréhension. Pourtant, Tricolore, sur ton visage, je vois vraiment inscrit « liberté, égalité, fraternité ». J'y distingue les traits principaux de la République française. Indivisibilité, laïcité, caractère démocratique et caractère social. Et j'y puise l'espoir de faire un jour partie de la société tricolore. Pour que je puisse vivre en France en toute légalité, il me faut des papiers. Personnellement, je n'y vois aucun obstacle. Je me sens de plus en plus chez moi en France. Je vis ici. Je me suis habitué aux odeurs et au goût d'ici. Tous mes repères sont maintenant ici. Dans mon sommeil, je rêve en français et je m'éclipse dès que mes amis font des blagues sur les sans-papiers.
Bacon. Bleu. Blanc. Rouge.
Merci Tierno pour cette lecture de Moi migrant clandestin. Pour dire que vous allez effectivement dans ce cheminement de mineur étranger, c'est dans cette catégorie que vous allez rentrer administrativement, mais vous allez découvrir dans ce cheminement plusieurs France en fait.
Donc je découvre déjà les éducateurs, les professeurs et tout. Donc la France qui m'aide, qui m'accompagne pour mon intégration. Et je retrouve de l'autre côté aussi la France des institutions de l'immigration. Donc il y a eu un moment donné où j'ai eu l'impression donc, que cette France-là ne voulait pas de moi vraiment et que cette France-là mettait tout en place pour ne pas m'accepter, pour ne pas me donner ne serait-ce qu'une petite France, qu'une petite place au sein de la société française.
Et il y a des refus de l'OFPRA, organisme auprès duquel vous demandez une demande d'asile. Il y a des refus qui vous font mal, qui sont douloureux, parce que ça vous fragilise de toute façon, sur le plan administratif bien sûr. Mais ça vous blesse intérieurement aussi parce qu'il y a des raisons de ce refus qui sont difficiles à entendre pour vous. Par exemple, quand on vous prend pour un mythomane par rapport à ce que vous racontez de cette Guinée menaçante pour vous.
Oui, il y a ces raisons-là très, très difficiles à entendre et à vivre aussi. Hein. Par exemple, à l'OFPRA, c'était sous prétexte qu'ils ne croyaient pas que vraiment que j'étais au stade du 28 septembre ou bien que j'étais au camp Alpha Diallo. Donc, je fais un recours au CNDA et au CNDA aussi, ça traîne, ça prend du temps. Et là, au final, j'ai une réponse qui me dit, en résumé, on vous croit vraiment, tout ce que vous avez dit, tout est juste, c'est bien détaillé. Mais maintenant, en Guinée, ça va bien, vous pouvez y retourner.
Vous allez découvrir très rapidement la vie des Guinéens en France aussi, qui est bien éloignée de ce qu'ils racontent en général. Vous avez découvrir le sentiment de paix qu'on peut ressentir dans la cathédrale de Strasbourg, vous le musulman. Vous allez apprendre aussi des notions d'alsacien. Vous parlez un peu alsacien alors aujourd'hui?
Je ne vais pas dire que je parle, mais je comprends un tout petit peu.
Mais... Vous êtes trop sage, Tierno. Vous allez aussi décrocher votre bac pro avec mention assez bien. Donc vraiment, c'est magnifique ça. Vous avez vraiment les félicitations du jury mondial, là. Et puis, il y a un moment symboliquement incroyable dans votre vie. Évidemment, il y a ce jour où vous allez décrocher votre titre de séjour, ça c'est sûr, mais c'est ce jour véritablement incroyable, c'est lorsque vous témoignez de votre expérience de réfugié devant le Conseil de l'Europe.
Oui, très difficile hein, au début. On m'avait proposé ça et vu que j'étais à un moment où j'arrivais pas à dire non, et mais finalement tout ça se termine bien et j'arrive tout simplement, je partage mon histoire, mon vécu de la Guinée jusqu'à Strasbourg aussi, tout ça devant des élus locaux et des anciens ministres aussi d'un peu partout en Europe. Et ce que je retiens de ce jour-là, il y avait un monsieur, donc ce monsieur-là, il était ministre de l'Intérieur dans son pays. Et donc quand j'ai fini de témoigner, j'avais dit que quand j'étais à l'OFPRA, le monsieur qui présidait avait les yeux fermés quand je lui parlais de ma mère, de ma sœur. Donc lui, il a fait référence à ça, il m'a dit « Tcherno, c'est vrai que donc, moi aussi j'ai pu occuper des fonctions comme étant ministre de l'Intérieur ». C'est vrai qu'en vous écoutant, je me rends compte que j'ai moi-même fermé les yeux parfois et que à travers vos témoignages, donc voilà, je me questionne.
Oui, vous gênez pas pour envoyer des petits tacles ou des petits messages subliminaux sur la politique d'immigration de l'Europe, sur la question des quotas à ce parterre de ministres qui vous écoutent. Et vous voilà aujourd'hui, Tcherno, dans le fauteuil de RFI. Bon, c'est un fauteuil confiné, mais quand même. Vous êtes un peu donc comme à la maison, hein, ici à RFI. Et j'ai envie pour un sol majeur, de vous faire entendre une voix maison.
Les archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il est un des individus, il est un des groupes d'individus opposés à l'exercice du pouvoir par le peuple. Cela estime que le peuple est incapable de concevoir par lui-même, de décider par lui-même, d'organiser l'action par lui-même, de l'exécuter sans une direction étrangère.
Cela pense que le peuple est incapable de penser de la Diallo, cette voix reconnaissable entre mille, ce ton, cette émission d'Archives d'Afrique, ça vous ramène où?
Oui, cette voix me ramène directement dans le Fouta Diallo, à Kamato précisément. Et je me rappelle que quand on y venait avec ma mère, il y avait un monsieur qui avait une petite radio avec des piles assis sous un manguier et on écoutait Alain Foucault.
Mais Alain Foucault, c'est à la fois sans doute la langue française particulière, et puis évidemment l'histoire, le rapport à l'histoire avec toutes ces archives de ceux qui ont dirigé le continent. Alors, la langue, ça a toujours été un point important chez vous, Tcherno Diallo, la langue française. À quel moment, en fait, commence l'écriture pour vous, Tcherno?
L'écriture pour moi commence au foyer Oberholz.
Oui.
Je me rappelle, on rentrait avec une éducatrice qui rentrait d'un rendez-vous administratif. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Elle cherchait son bouquin et elle m'a acheté Fatou Diom. Moi, je ne connaissais pas Fatou Diom, alors je rentre au foyer. Donc, je commence à lire petit à petit. Et je découvre que cette dame habite à Strasbourg ou bien est passée par Strasbourg. Et donc, c'est dans ce livre du Fatou Diom, Préférence nationale, que j'ai découvert la cathédrale. Parce que j'étais à Boussevillers, je venais rarement à Strasbourg. Et donc, c'est là que je commence à lire. Et je me rappelle aussi, au foyer, je voyais aussi la psychologue.
Vous faites régulièrement des cauchemars, en fait, hein, pendant toute cette période-là.
Oui, je faisais beaucoup de cauchemars, je criais la nuit, donc les éducateurs m'ont dit ça. Et moi, au début, je leur ai dit que c'était normal. Moi, j'ai toujours crié, ça m'arrive souvent, même quand j'étais en Guinée. Donc, ils m'ont conseillé quand même de voir la psychologue au foyer. Donc c'est comme ça que je commence petit à petit, ça me faisait du bien. Et sauf qu'à un moment donné, j'ai été obligé d'arrêter de voir la psychologue parce que en fait, mes amis au foyer sont allés dire ça au collège. Donc j'arrive un matin au collège, il y a tout le monde qui me dit « Mais Tierno, tu vois la psychologue, c'est pas normal, t'as un problème, t'as un souci ». Et ben, naïvement, je me suis dit qu'il fallait choisir, soit je garde les amis, sinon j'arrête de voir la psychologue.
Oui, parce que dans ce foyer où il y a d'autres étrangers et où vous vous intégrez assez bien avec le monde français, on va dire, vous avez à choisir.
Oui, ça arrive aussi un peu plus tard, parce que quand je suis arrivé au foyer, j'étais le seul étranger qui était là. Donc tous les autres jeunes, c'était des jeunes français. Donc, vu que ben, j'avais noué des liens d'amitié avec ces jeunes-là, on était, voilà, on se connaissait déjà, et petit à petit, donc il y a eu des jeunes étrangers aussi qui arrivaient au foyer. Quand j'étais avec les Français, les autres me disaient que oui, lui, c'est parce que ben, il est là depuis un moment, maintenant il se croit français, il est avec eux. Et quand je me retourne vers les étrangers, les jeunes Français aussi, ben, me voyait entre guillemets comme un traître et que ça se passait bien avec eux jusqu'à ce que les étrangers arrivent. Maintenant, j'ai choisi mon camp. Donc,
ils sont 8, retenez bien. 8 ils sont, des filles et des garçons, grands et petits, de cheveux longs, courts, lisses, crépus, blonds, bruns et noirs, des yeux bridés et autres. Voilà, ça c'est le début de ce deuxième récit que vous venez de faire paraître, Tierno Diallo, chez L'Harmattan, qui s'intitule « Dévouement et remerciement, ce carnet, ma contribution au vivre ensemble ». J'ai l'impression que bon, dans ce roman, en fait, vous donnez la parole à tous ceux que vous avez croisés sur la route, sur votre route à vous d'immigration et d'exil.
Oui, effectivement, c'est ça.
Alors, ce groupe de jeunes venus d'ailleurs, venus de ces coins où il y a le mal de vivre, il y a la guerre, il y a la difficulté d'être au monde, c'est un petit peu comme une sorte de nation arc-en-ciel hein, que vous recréez sous votre plume. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez la France des années 2000?
Oui, c'est mais, voilà, parce que moi, je suis entouré d'une France, parce que moi, je vis dans une France métissée. Ces personnages-là dans le livre, je m'inspire de mes amis, des personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu rencontrer.
Une question, Tierno, une question sur la langue, parce que l'heure tourne hein, malheureusement, mais est-ce que comme à votre arrivée en France, dans votre tête, vous traduisez, vous transposez votre pensée du Peul au français? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous qui rêvez en français, vous disiez ça tout à l'heure, voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, vous écrivez directement en français. Comment ça se passe?
Maintenant, de moins en moins. Et maintenant, c'est l'inverse plutôt. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est ce qui m'arrive souvent quand je discute avec ma sœur, on parle beaucoup. Je perds des mots en peul et je me dis souvent, je sais comment ça s'appelle en français, mais je ne sais pas comment. Donc, je décris et le plus souvent, c'est elle qui finit par trouver. Mais quand je parle des rêves et tout ça, je sais que je suis focalisé sur tout ce qui est l'intégration. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose qu'on m'imposait. J'ai eu l'impression qu'on ne m'a pas laissé m'intégrer à mon rythme, sachant que l'être humain a cette capacité extraordinaire de s'adapter. Moi, Tierno, je me suis découvert. Je sais que j'ai une capacité de m'intégrer.
Tierno, vous savez quoi, j'ai envie qu'on joue un petit jeu en sol majeur qui s'appelle le j'aime pas. C'est parti?
D'accord.
J comme J'aime pas.
Mori Kanté?
Oui, j'aime. J'adore.
La Guinée et les amoureux de la musique sont endeuillés hein, depuis son départ. Mais alors, le français D'origine guinéenne, le Guinéen, je vous taquine, Tierno. Le Guinéen exilé, comment il vit ce genre d'événement à distance?
Ça m'attriste. Mais juste le fait d'entendre sa musique là, yéke, yéke, et le fait de savoir que c'est un Guinéen, voilà, ça fait plaisir. Donc c'est une grande personnalité guinéenne, française et du monde qui vient de nous quitter.
Même pour vous, jeune génération?
Oui, effectivement, oui, parce que Yékéké, par exemple, je ne sais pas en quelle année il a chanté, mais...
87, 88 de mémoire.
D'accord, donc Yékéké, je connais Yékéké en Guinée et même ici en Alsace, quand je vais au casino, par exemple, avec les amis, on entend Yékéké dans les bars aussi. Il y aura un moment où on va entendre Yékéké.
Hadja Lofo.
Oui, Hadja Lofo, j'adore. C'est une des rares femmes ministres dans le régime de Sékou Touré. Et donc, la Guinée venait d'accéder à l'indépendance. Hein. Donc, elle était la seule femme. Et c'est la première aussi à tenir tête à Sékou Touré. Et donc, le président n'avait pas aimé. Et la suite, on connaît, c'est Hadja Lofo a été assassinée.
Sékou Touré, alors?
Sékou Touré, je suis obligé de dire que j'aime pas. J'ai la liberté j'aime ou j'aime pas, donc j'aime pas.
Vous êtes obligé de le dire. C'est drôle de l'exprimer de cette manière-là. Ça a été difficile d'arriver à s'avouer à soi-même que Sékou Touré, celui qui a dit non à De Gaulle, celui le père de l'indépendance, il y a toute cette aura autour de Sékou Touré, mais il n'y a pas que ce Sékou Touré-là, on le sait bien. Ça a été difficile de vous avouer à vous-même que finalement...
Oui, ça a été difficile quelque part parce que y a ce discours-là que vous venez d'évoquer. Là, dans ce discours, il a porté la parole des Guinéens. Donc les Guinéens aspiraient vraiment à l'indépendance. Donc les Guinéens étaient derrière Sékou Touré. Mais c'est la suite en fait qui est terrible. Donc son régime a basculé après dans la dictature et il y a eu beaucoup d'assassinats. Et je pense même que les différentes ethnies qui existent en Guinée en ce moment ont commencé à cette époque-là. Donc quand on voit ça, on hésite entre aimer et aimer pas. Mais malheureusement, la finalité fait qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas. Parce que la Guinée aurait pu être un exemple.
Être un Diallo, est-ce que vous aimez? Je vous pose la question parce que des Diallo, il y en a en Guinée, mais il y en a aussi en Côte d'Ivoire, il y en a au Sénégal. Alors, être un Diallo?
Non, pour moi, être un Diallo, être un Ba, être un Camara, un Silla, ou un... Je ne vais pas dire que ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est... Non, la question est très difficile.
Mais vous me permettez une transition, Tierno. De toute façon, on n'a pas le temps de développer. Donc, je vais en profiter pour vous emmener prendre des nouvelles justement du pays avec un bas. Vous êtes un Diallo, mais là, il y a un bas qui arrive. En cette période de pandémie, on va se retrouver dans la région administrative de Kandia, 136 km de Conakry. J'ai pu voler quelques minutes à un professeur d'histoire géo.
C'est comme cahier d'écolier.
Bonjour Ousmane Ba.
Bonjour Yasmine.
Fidèle auditeur d'En Sol Majeur, hein, je le sais, on se suit via Facebook régulièrement. Si je dois vous présenter rapidement, vous êtes enseignant en histoire-géographie au collège et au groupe scolaire Saint-André et Noémia. Ce sont deux collèges privés qui se situe, je crois, dans la banlieue de Conakry. Et puis, vous êtes également chercheur. On va parler une seconde de la pandémie, de se donner des nouvelles de cette question de la pandémie en Guinée, parce qu'évidemment, elle a eu des conséquences difficiles. Depuis le 19 mars dernier, il y a eu l'arrêt des cours pour les collégiens et les lycéens guinéens. Avec quelles conséquences pour vous, professeur?
Depuis le mois de mars, on n'est pas payé. Certains fondateurs quand même ont essayé de payer une partie du mois de mars. Donc, depuis le mois de mars, on n'a pas reçu le salaire.
D'accord. Juste pour qu'on ait une idée, Ousmane, combien gagne un professeur de collège tel que vous, vous qui enseignez l'histoire et la géographie, par exemple?
Pour moi, qui travaille du lundi au samedi de 8h à 14h, mon salaire environne entre 1 600 000 et 1 400 000.
Ce qui nous fait en euros
110 à 120 euros.
Par mois?
Oui.
Est-ce que je peux vous demander, Ousmane, de quoi vous vivez alors en l'absence de ce salaire depuis 2 mois maintenant?
Ah oui, je vis quand même avec des conditions très difficiles. C'est ce qui même nous a poussé à mettre une plateforme ici pour essayer d'interpeller l'État par rapport à ça.
Mmh. Donc vous avez mis effectivement une plateforme revendicative et c'est pour ça finalement qu'on se parle aujourd'hui. J'avais envie qu'on s'en fasse l'écho en sol majeur entre un syndicat national des enseignants privés de Guinée, le SINPEGI, et puis l'association pour la défense des enseignants du privé, l'ADEP. Alors j'ai lu le courrier que vous avez adressé au ministre de l'éducation et de l'alphabétisation, au premier ministre, au président lui-même, Alpha Condé, et il y a une liste impressionnante de problèmes soulevés par votre syndicat. Vous parlez du faible taux horaire.
Voilà, les écoles varient. Par exemple, nos collègues qui sont dans les établissements publics, ils sont payés 12 mois sur 12. Donc, c'est un peu pas ça. Et vous allez voir aussi les heures. Il y en a qui reçoivent environ 600 francs guinéens par heure. Et 600 francs guinéens, ça, c'est moins de 1 euro. Hein.
Alors sur cette plateforme revendicative, vous dénoncez aussi le manque de respect et de considération des enseignants dans bon nombre d'écoles privées. Vous dénoncez le recrutement qui part en droit, le refus de signer un contrat. Bon, c'est des vrais problèmes. Est-ce que le gouvernement qui a pensé à pour compenser cette pandémie sur certains secteurs a mis en place un plan de riposte, hein ? Est-ce que vous êtes, vous enseignant du privé, intégré dans ce plan de riposte?
Voilà, non. Et déjà, ça a été l'une des causes qui a motivé nous, les enseignants du privé, de créer cette plateforme revendicative parce que le plan de riposte que le ministre a lu, rien n'a été dit pour nous, les enseignants des écoles privées. Donc, aucune mesure n'a été prise vis-à-vis de nous.
Mais est-ce que, Ousmane, vous qui êtes à Conakry, donc enseignant l'histoire et la géographie dans les collèges, est-ce que vous prenez un risque finalement avec cette plateforme revendicative menée par les syndicats? Parce que je vois que dans vos revendications, vous souffrez aussi d'intimidation et de remerciements des enseignants qui justement revendiquent leurs droits comme vous le faites aujourd'hui. Est-ce que vous prenez un risque en faisant ça?
Ah oui, nous prenons le risque parce que nous savons quand même que nous sommes dans le risque de licenciement. Nous avons entendu quand même, moi personnellement, certains le disent, il y a des jeunes qui essayent de menacer des écoles privées.
Alors, j'espère en tout cas, Ousmane Ba, que votre voix sera entendue via RFI. Pour terminer, puisque Tierno Diallo, notre invité, vous écoute et comprend évidemment très bien la situation dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que vous auriez une question à lui poser?
Est-ce que c'est le même système éducatif que nous faisons en Guinée ici comme la France? Et qu'est-ce qu'il faut pour éviter le chômage des étudiants qui sortent chaque année dans les différentes universités guinéennes?
Alors vous, Tierno, qui avez été, je ne l'ai pas encore dit, mais scolarisé dans un collège privé de Matoto en Guinée et qui décrivait d'ailleurs le système éducatif guinéen d'il y a 10-15 ans très durement. Vous évoquez notamment la corruption des professeurs. Je vous cite, « Au collège, les profs pratiquent la bonne baise contre la bonne note. » Qu'est-ce que vous pourriez répondre alors à la question d'Ousmane Ba qui vous écoute à Conakry?
Donc, d'accord, oui, avant de répondre à la question, donc, je vais saluer Ousmane Ba. Ousmane Ba, Diara Mamo, Yam Salmini, ma commune Tierno Diallo. Donc, ko yette Diallo Dion, Salmini, yette Ba Dion. Donc, j'ai dit tout simplement, Ousmane, je te remercie, c'est moi, Tierno Diallo, qui te remercie. C'est un Diallo qui remercie un Ba. Donc, Ousmane, il comprendra. On a l'habitude de se taquiner,
même nous.
Les Ba ou Diallo. Voilà, il comprend.
Très bien.
Pour revenir à sa question, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être en France pour se rendre compte que le système éducatif guinéen est très, très en retard. Donc, au-delà d'aller de le comparer au système éducatif français. Donc, et je pense que la solution, la meilleure solution en tout cas, c'est de continuer, de persévérer, comme Ousmane, comme il vient de le dire, avec des difficultés. Mais la volonté d'éduquer la jeunesse, et voilà, je pense que c'est dans ce domaine-là qu'il faut continuer, en attendant, en espérant qu'il y aura plus tard la bonne volonté de nos gouvernements, de nos dirigeants.
Voilà, l'école ayant été un traumatisme et pouvant être et étant la clé de tellement de destins, on envoie des forces à tous les Ousmane Ba qui se battent pour une école meilleure en Guinée. On va se quitter, Tierno Diallo, en vous félicitant encore de ce très beau trajet qu'est le vôtre. On va se quitter avec un panafricaniste nommé Tikenja Fakoli. Pourquoi lui, rapidement?
Oui, Tikenja Fakoli, donc c'est quelqu'un qui nous a accompagnés. Moi, quand j'écoute Tikenja Fakoli, donc en plus avec le reggae, il passe un message simple aux jeunes Africains, parce que moi, quand j'étais en Guinée, je ne parlais pas très très bien le français, mais je comprenais les messages de Tikenja Fakoli.
Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni. Ça va faire mal, ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté. On pourra dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis. Ça va faire mal, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal, ça va faire mal. On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. Bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Bonne route à notre invité Tierno Diallo en sol majeur, à podcaster, vous le savez, sans modération sur votre application Pure Radio ou bien à retrouver en direct chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, toujours confinée. On vous retrouve demain avec Assia Djoulaït. À demain.